Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 13h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, les négociations s'achèvent sans véritable avancée entre le Liban et Israël. Beyrouth n'a pas obtenu d'accord pour un véritable cessez-le-feu. On fait le point dans notre édition. En Algérie, un deuxième narcotrafiquant présenté comme proche de la DZ Mafia a été arrêté. Une interpellation qui confirme le renforcement de la coopération judiciaire entre la France et l'Algérie. Météo France maintient 8 départements du sud-est en vigilance orange canicule, avec des températures pouvant atteindre les 40 degrés dans le Gard et le Var. Direction le Moyen-Orient, les négociations s'achèvent sans véritables avancées entre le Liban et Israël. Beyrouth n'a pas obtenu d'accord pour un véritable cessez-le-feu ni d'avancée sur un retrait israélien du territoire libanais à l'issue d'une 7e session de négociations à Rome sous parrainage américain. Israël priorise le désarmement du Hezbollah. Les précisions avec vous, Inès Gilles.
Et oui, les discussions tenues à Rome avec Israël se sont achevées jeudi sur une perspective négative pour le Liban au terme de 3 jours de rencontres. La délégation de Beyrouth n'a pas obtenu gain de cause pour ses deux principales demandes. Un véritable cessez-le-feu dans le sud Liban, où l'armée israélienne poursuit des frappes et des dynamitages quotidiens, et des avancées sur le retrait d'Israël de la zone qu'il occupe dans cette partie du pays. Il s'agissait de la 2e session de pourparlers depuis que le Liban, Israël et les États-Unis ont signé un accord cadre le 26 juin dernier. Et au cœur des discussions, il y avait les zones pilotes, des zones dans le sud Liban où l'armée libanaise devait se redéployer et nettoyer progressivement l'arsenal militaire du Hezbollah. Mais l'ambiguïté sur la définition de ces zones est au cœur du blocage entre le Liban et Israël. Une partie tierce chargée de superviser le mécanisme n'a pas non plus encore été désignée. Le Liban négocie en position de faiblesse depuis le début des contacts directs avec Israël, alors que les violences continuent dans le sud Liban. Beyrouth dépend de la pression que Washington accepte ou pas d'exercer sur Israël. Il doit aussi composer avec le Hezbollah qui s'oppose à ces négociations directes avec Israël. La prochaine rencontre des délégations n'aura pas lieu avant septembre.
Merci beaucoup Inès Gilles pour toutes ces précisions. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a réuni aujourd'hui à Jeddah sur la mer Rouge les dirigeants turcs et pakistanais où ils ont scellé un accord de défense. Cet accord interviendrait alors que l'Iran a attaqué à plusieurs reprises les pays du Golfe, alliés des États-Unis dont l'Arabie Saoudite. Le royaume a subi hier soir des attaques menées par les Houthis, alliés de Téhéran, faisant 7 blessés. Le bilan le plus lourd dans une attaque de ces rebelles yéménites contre l'Arabie Saoudite depuis des années. Et au Yémen, les rebelles Houthis ont attaqué hier les forces gouvernementales, tuant au moins 58 soldats. Un bilan sans précédent en 4 ans de trêve. Dans le reste de l'actualité internationale, en Thaïlande, un adolescent de 14 ans a tué ses grands-parents avant d'ouvrir le feu dans son lycée où il a tué 5 personnes selon la police thaïlandaise. Le tireur a retourné l'arme contre lui. En Espagne, la police espagnole a annoncé hier avoir démantelé un important réseau de passeurs entre l'Espagne et l'Algérie et avoir interpellé 78 personnes dont 27 ont été placées en détention provisoire. Assiste-t-on à un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie? Après Abdelatif Mehdi Laribi, un deuxième narcotrafiquant présenté comme proche de la DZ Mafia, Rachid Djea, a été interpellé en Algérie. C'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui l'a annoncé hier. Son arrestation vient donc confirmer l'existence d'une coopération judiciaire efficace entre les deux pays. On fait le point avec vous, Inès Gilles.
Et oui, il est considéré comme l'une des têtes du réseau de la cité de la Castellane à Marseille. Rachid Djea a été interpellé en Algérie le 3 août dernier. Il avait repris les rênes du réseau de la Castellane, jusqu'alors dirigé par son frère Mohamed Djea, qui avait lui-même été arrêté par les autorités algériennes en juin 2023. Celui qui se faisait alors surnommer Mimo dirigeait ce groupe criminel, considéré comme l'un des plus rentables de Marseille avec ses 2 points de deal. Vous l'avez dit, Nawal, l'arrestation de Rachid Jaa, d'abord annoncée par nos confrères de RTL, a été confirmée par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui s'est félicité de la coopération relancée au service de la sécurité des deux pays. Une coopération qui semble donc efficace car c'est la seconde annonce cette semaine d'arrestation en Algérie d'un narcotrafiquant inquiété par la justice française. Déjà ce mercredi, le procureur de Marseille avait annoncé qu'un autre chef présumé de l'organisation criminelle des Z-Mafia, Mehdi Laribi, connu sous le surnom de Tic, avait été interpellé en Algérie fin juillet sur exécution d'un mandat d'arrêt de la justice française. Ces interpellations interviennent quelques semaines après la visite de Gérald Darmanin à Alger, présenté comme le point d'orgue d'une reprise de la coopération judiciaire entre les deux pays.
Et Adeline Mehdi, journaliste algérien et correspondant du magazine Le Point, revient sur l'arrestation de Mehdi Laribi, l'un des fondateurs présumés de la DZ Mafia. Et il s'agit, selon lui, d'un tournant dans la coopération entre la France et l'Algérie.
C'est un double tournant, en fait. C'est un tournant pour l'organisation criminelle elle-même, parce que Mehdi Laribi est le cofondateur avec son frère de Lamine de cette organisation criminelle marseillaise. Et de l'autre côté, c'est le premier geste concret qui vient après une série de rencontres et d'échanges depuis le mois de février au moins entre les autorités françaises et algériennes, sécurité et judiciaire. Et on voit aujourd'hui se concrétiser enfin cette coopération qui, il faut le rappeler, était en panne depuis près de deux ans.
Et pour revenir justement sur l'arrestation de Mehdi Laribi, l'Algérie ne peut pas extrader ses ressortissants. Pour rappel, lui est binational. Donc que peut concrètement obtenir la justice française dans cette affaire? Une coopération judiciaire peut-elle être aussi efficace qu'une extradition?
Pour Mehdi Laribi, je rappelle qu'il a été mis sous contrôle judiciaire. Mmh. Et les autorités judiciaires algériennes attendent en fait que les autorités françaises complètent le dossier afin de pouvoir l'inculper directement. Donc on est dans des processus un peu lents, toujours compliqués, parce que pour l'Algérie, elle n'extrait pas ses ressortissants, comme vous me l'avez dit. Mais les autorités algériennes attendent que les autorités françaises transmettent ce qu'on appelle les éléments d'enquête, afin de finaliser le dossier criminel et permettre la mise en œuvre de la poursuite par la justice algérienne dans un premier temps. Et quand il est jugé et incarcéré, cela ouvrira la voie à une extradition ou pas. Mais dans les deux cas, on aura quand même un des chefs de la DZ Mafia qui a été neutralisé. Et dans les enquêteurs français, notamment marseillais, soupçonnent qu'il continue à avoir un rôle dans la gestion de cette organisation criminelle. Donc, même s'il est en prison en Algérie, même s'il n'est pas extradé, c'est quand même un coup pour la DZ Mafia.
Adeline Mehdi, journaliste algérien et correspondant pour le magazine Le Point. Dans l'actualité en France, le pape Léon XIV rencontrera lors de son voyage dans le pays du 25 au 28 septembre des victimes des violences sexuelles dans l'Église, a annoncé le Vatican aujourd'hui sans donner de détails dans l'immédiat. Dans un tout autre volet, le tribunal administratif de Montreuil a validé la fermeture pour 6 mois de la mosquée de Chanteloup à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, que le préfet accuse de promouvoir la violence et des actes de terrorisme, selon la décision publiée aujourd'hui. L'incendie provoqué hier par un accident de la route et qui a parcouru une centaine d'hectares dans le massif des Corbières, près de Narbonne, est désormais fixé, mais celui dans le massif de Clat, près de Bellegarde en Diois, dans la Drôme, a progressé dans la nuit, selon les préfectures. Et enfin, Météo France maintient 8 départements du sud-est en vigilance orange canicule, selon son dernier bulletin, qui annonce notamment des températures pouvant atteindre les 40 degrés dans le Var et le Gard. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.